الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 21 من شهر محرم عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 21 من شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 22 octobre 2016 et aujourd'hui, inshallah, nous allons entrer dans le 21e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de son auteur, le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab, puisse Allah lui faire miséricorde et le récompenser grandement. Nous sommes toujours dans le chapitre mentionné par l'auteur, ayant pour but, à travers cela, de montrer les preuves du Tawhid, les preuves que nul autre qu'Allah mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, et l'interdiction formelle de lui donner un égal dans l'association, dans l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés dans ce chapitre sur l'histoire qui s'est déroulée au cours de la bataille de Uhud, quand l'ennemi a réussi à s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le frapper au visage, faire couler son sang et lui casser quelques dents. Alayhi salatu wassalam. Le prophète a aussitôt réagi, alayhi salatu wassalam, en disant: Kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyyahum. Comment un peuple blessant au visage son prophète peut-il réussir? C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla ce noble verset: Laysa laka min al-amri shay. Le sens de cette partie de verset est la suivante: tu n'as rien de l'ordre, c'est-à-dire de l'ordre d'Allah. Rien ne te revient ni t'appartient. Ô toi, le noble prophète, c'est lui qui décide, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que le messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré le rang grandiose qu'il occupe chez Allah, puisqu'il est son élu, son messager, il n'est pas comme une autre créature, il n'est pas n'importe qui, et cela n'a pour autant pas pu lui faire éviter d'être touché par l'ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala, au point où son sang a coulé et quelques dents ont été cassées et fissurées, alayhi salatu wassalam. Ça montre que tant que la créature est une créature, elle est sujette à la faiblesse, à l'attaque de l'ennemi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas pu éviter ce coup qu'on lui a infligé. Ce qui montre que le seul qui doit être adoré, invoqué, sollicité, imploré, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Car on a réussi à faire couler le sang de la meilleure des créatures. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Qahhar, le dominateur suprême, l'inébranlable, l'imbattable, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui doit être adoré, c'est lui qui mérite le culte, c'est lui qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a aussi voulu nous montrer à travers ce verset qu'il est celui qui détient l'ordre et le commandement dans sa main, comme nous l'avons vu dans un verset cité précédemment, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ala lahul khalqu wal amr. N'est-ce pas que l'ordre, n'est-ce pas que la création et que l'ordre lui reviennent? C'est lui qui crée et c'est lui qui ordonne, subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. C'est ça? Immense soit Allah, le Seigneur des mondes. Et au cours passé, j'ai dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin, et c'est une erreur. Le sens de le verset est Tabarakallahu rabbul alamin, subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi d'une façon lorsque il a été touché par ces gens-là. L'auteur a dit wa fi riwaya, et dans une version de cette histoire, yad'u ala Safwan ibn Umayya wa Suhayl ibn Amr wa al-Harith ibn Hisham. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou pardon, juste avant, wa fihi an ibn Umar radiyallahu anhuma, d'après le fils de Umar, annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر, alors qu'il levait sa tête de l'inclinaison de la dernière rak'a de la prière de l'aube. اللهم لعن فلانا وفلانا, ô Allah, maudit un tel et un tel. بعدما يقول سمع الله لمن حمده, après avoir dit سمع الله لمن حمده, et donc s'être retenu droit, il s'est mis à lever les mains et à invoquer Allah contre ceux qui lui ont fait du tort et qui en réalité ont fait du tort à l'islam, en demandant à Allah de les maudire, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah a révélé ce verset. Dans l'autre version, on a les noms de ceux contre lesquels il a invoqué Allah. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية, il a invoqué Allah contre le dénommé Safwan ibn Umayya, وسهيل ابن عمر, et ce deuxième, et le troisième, والحارث ابن هشام. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du Fajr, a levé ses mains et a invoqué Allah en disant « Oh Allah, fais que ta malédiction s'abatte sur Safwan ibn Umayya, sur Suhail ibn Amr et sur le troisième, Al-Harith ibn Hisham, en citant leur nom. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. Laysa laka min al-amri shay, rien de l'ordre ne te revient. Et vous allez voir, si vous lisez la sirah, que ces trois personnes se sont converties à l'islam. Allah Azza wa Jal a voulu montrer à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est lui seul qui décide. Et quand le messager alayhi salatu wa sallam a dit « Comment un peuple blessant au crâne son prophète peut-il réussir ?» Il se base sur ce qu'il voit. Il voit un peuple qui s'acharne sur son messager, qui n'hésite pas à lui faire subir des violences, des supplices, ou à essayer du moins, jusqu'à même essayer de l'exécuter. En apparence, quelqu'un qui est dans une telle situation est quelqu'un qui est voué à la perte. Comment une telle personne peut-il réussir? Elle peut-elle réussir? Certes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le contenu des cœurs, les méritants du châtiment, des méritants de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'une personne fasse comme mal, comme tort, comme injustice, comme violence, si Allah Azza wa Jal décide au final de guider le cœur de cette personne, nul ne pourra l'égarer. Tout comme si Allah Tabaraka wa Ta'ala décide d'égarer une personne, nul ne pourra la guider. Tout l'ordre est dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Ces trois personnes ont embrassé l'islam. D'ailleurs, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le second cité ici qui est Suhail ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, lorsque les gens ont commencé à penser à apostasier, à sortir de l'islam, à quitter l'islam, wal'iyadu billah, après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est Suhail ibn Amr qui s'est tenu debout au sein des gens de la Mecque et qui les a exhortés à ne pas quitter l'islam. Lui, contre lequel le prophète avait invoqué sallallahu alayhi wa sallam est celui qui va être la cause de la fermeté des musulmans dans leur dîn, dans leur religion. Il leur a dit: Ya ahla Mecca, ô vous les gens de la Mecque, la takunu akhira man aslam wa awwala man irtad. Ne soyez pas les derniers à avoir embrassé l'islam et les premiers à l'avoir quitté. Un simple rappel qu'il leur a fait, qu'il leur a été bien utile, puisque ils n'ont pas quitté cette religion bénie. Walillahi alhamdu wal minna. Le cheikh Salih al-Fawzan a dit: وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. Cette histoire est une preuve claire montrant que nul autre qu'Allah ne connaît l'invisible. Pourquoi? Si le prophète connaissait l'invisible sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se préparer et éviter qu'on le blesse et qu'on fasse couler son sang. Mais s'il n'a pas pu le faire, c'est bien parce qu'il ne connaît pas l'invisible et qu'il ne connaissait pas le lendemain, alayhi salatu wassalam. S'il en est ainsi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas une des plus grandes, voire la plus grande erreur, que de croire qu'un gourou, un maître spirituel, un grand imam ou quelqu'un qui est qualifié de vertueux, de pieux, peut connaître ce qu'il y aura demain et ce qu'il adviendra à l'un d'entre nous demain, alors que le messager alayhi salatu wassalam n'a pas pu éviter qu'on lui blesse? S'il avait pu l'éviter, selon vous, pensez-vous qu'il aurait quand même donné son visage pour qu'on lui fasse couler son sang? Seul quelqu'un de stupide peut prononcer une telle parole, mais il ne peut pas. Il ne peut pas éviter parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, sallallahu alayhi wasallam. وأنك لا تحكم على المعنيين بالنار إلا من حكم عليه الله حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. De même, on voit ici qu'il est nullement permis de juger quelqu'un en disant que ce dernier entrera au feu ou entrera au paradis sans que cette personne ait été citée par le Coran et par la Sunna comme étant destinée au feu ou au paradis. Et ça, c'est là un des points importants dans la croyance des gens de la Sunna, qui est, les gens de la Sunna disent de celui dont l'entrée au paradis a été attestée par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il entrera au paradis. Un exemple, Omar et Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, et 8 autres. Il a cité 10 compagnons dans un hadith. On dit d'eux qu'ils entreront au paradis. Pourquoi est-ce qu'on s'engage et on affirme? Parce qu'on a un texte derrière nous qui nous l'indique. Si on n'en avait pas de texte, jamais on aurait dit un tel et un tel iront au paradis. C'est pourquoi, quand on voit quelqu'un de pieux, vertueux, mais il n'y a pas de texte, on dit on espère pour cette personne le paradis. Mais est-ce qu'on est capable d'affirmer pour cette personne qu'elle entrera au paradis? La réponse est non. De même, l'entrée en enfer. On ne peut pas dire un tel ira au feu si Allah ne l'a pas dit dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Allah azza wa jalla a dit au sujet de Abu Lahab: Sayasla naran dhata lahab. Il brûlera dans un feu. Il nous est permis de dire Abu Lahab va au feu, il est destiné au feu. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a dit dans le Coran. Et pareil pour des gens qui ont été cités par les textes. Par contre, s'il s'agit de quelqu'un qui certes peut être mauvais, oppresseur, mais n'a pas été cité par le texte, on dit on craint pour cette personne. Mais on ne peut jamais se permettre d'affirmer ce où on n'a pas été devancé par le Coran et par la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah. L'auteur a dit wa fihi an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. Également, l'imam al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira, c'est donc un autre texte vers lequel l'auteur passe maintenant, rapporte d'après Abu Huraira que quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce noble verset « Wa anzir ashiratak al-aqrabin » le sens rapproché du verset est le suivant « Et avertis les gens de ta famille qui te sont le plus proches. » Quand ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci se leva et dit, immédiatement après la révélation de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu debout et s'est adressé à son peuple en leur disant, ô peuple de Quraysh, rachetez vos âmes, car je ne serai d'aucun secours auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, les autres de sa famille, notamment Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est son oncle, le frère paternel. Non, l'oncle paternel, le frère de son père, alayhi salatu wa sallam, en lui disant, ya Abbas, Ibn Abd al-Muttalib, la ugni anka min Allahi shay'a. Et on verra le sens de tout cela. Ya Safiyatu wa ammata Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la ugni anki min Allahi shay'a. Wa ya Fatima bint Muhammadin, salini min mali ma shi'ti, la ugni anki min Allahi shay'a. Ce hadith est immense de par l'essence qu'il contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit au peuple de Quraysh, rachetez donc vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Abbas, fils de Abd al-Muttalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, la fille de Muhammad, demande ce que tu veux parmi mes richesses, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est grandiose. Il nous montre que le seul qui est capable de nous secourir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut apporter secours à personne. Pas même les gens de sa tribu, premièrement. Deuxièmement, plus particulièrement dans les gens de sa tribu, les gens de sa famille, comme son oncle. Plus particulièrement, et son oncle et sa tante. Plus particulièrement dans les gens de sa famille, les gens de son sang directement, comme sa fille. Radiyallahu ta'ala, an as-sahabati ajma'in. Il ne peut rien pour eux et il s'adresse à eux en leur disant, demandez-moi, vous voulez de l'argent que je peux vous donner, demandez, mais à part ça je ne peux rien pour vous chez Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le maître de l'islam qui enseigne aux adeptes de l'islam la croyance. Comparez maintenant cela avec les maîtres de groupes s'affiliant à l'islam et la façon qu'ils ont de s'adresser avec leurs adeptes. Lorsqu'ils leur disent, demandez-moi votre avenir, je peux vous le prédire. Oh vous, demandez-moi la bénédiction, je peux vous l'accorder. Demandez-moi la guérison, je peux vous aider. Demandez-moi quand vous êtes en voyage, sollicitez-moi, appelez-moi, je vous répondrai. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, à son peuple, à son oncle, à sa tante, à sa fille, à ses êtres les plus chers, s'il pouvait les protéger, pensez-vous qu'il s'en empêcherait? Il leur dit, demandez-moi ce que vous voulez, je ne vous serai d'aucun secours devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avec des mots simples mais explicites, enracine dans le cœur des adeptes de l'islam, la base même de l'islam qui est at-tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense, a dit concernant le verset « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » et avertit les gens qui te sont le plus proches. Il y a l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la da'wa, dans la prédication, de commencer par les proches, de commencer par ceux qui sont proches, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un envoyé, un prédicateur, un avertisseur vers l'ensemble des mondes, puisqu'Allah azza wa jalla a dit liyakuna lil'alamina nadhira, afin qu'il soit avertisseur pour l'ensemble des mondes. Mais il commence par les gens qui sont autour de lui, alayhi as-salatu was-salam. Il y a aussi la preuve que nous devons exécuter les ordres d'Allah à l'instant où on reçoit cet ordre et ne pas laisser et le remettre à plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Non. Quand le messager alayhi salatu wassalam a reçu la révélation de ce verset, il s'est tenu debout tout aussitôt après et a appelé les gens de son peuple pour s'adresser à eux avec les paroles que vous venez d'entendre. Donc, il y a la preuve qu'il faut exécuter rapidement et ne pas laisser le temps passer. Car personne ne sait ce que le temps nous réserve. Et le Cheikh a dit qu'il y a aussi en cela une preuve montrant que celui qui appelle Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons dit, commence d'abord par ses proches et que ceci est le manhaj, la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ad-da'wa, dans l'appel à Allah. Car Allah azza wa jalla a dit Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez eu la foi, préservez vos personnes et les vôtres d'un feu dont le combustible sera les pierres. Préservez-vous. Ensuite, préservez les vôtres, les gens de vos familles, les gens qui sont autour de vous. Voici le chemin à suivre quand on appelle à Allah. Contrairement à certains qui n'hésitent pas à abandonner leur famille, à abandonner les gens qui sont autour d'eux, et voire même à quitter le pays, jusqu'à délaisser leurs épouses et leurs enfants. Et ils disent, on fait cela pour suivre les compagnons. Non, les compagnons, tu ne les suis pas. Les compagnons n'ont pas délaissé leurs femmes et leurs enfants, comme toi tu l'as fait. Quand les compagnons ont quitté leurs femmes et leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants avaient les cœurs remplis de tawhid. Ils ne craignaient pas que leurs femmes et leurs enfants tombent dans la bid'a, dans l'innovation, tombent dans le shirk, dans le polythéisme, comme c'est peut-être le cas de bon nombre de gens aujourd'hui, comme on le voit chez par exemple le groupe de prêche appelé Jama'atut Tabligh, hein, le groupe de la prédication, dont les adeptes, pour beaucoup d'entre eux, n'hésiteront pas à délaisser leur famille, à ne rien enseigner à leur famille, leurs proches, puis à prendre les bagages et à parcourir des centaines et des centaines de milliers ou des centaines ou des milliers de kilomètres dans le but, selon eux, de prêcher à Allah, alors qu'ils ne connaissent pas la langue arabe, qu'ils ne comprennent pas le Coran, qu'ils ne comprennent pas l'aqidah al-islamiyya, la croyance islamique, qu'ils ne savent peut-être pas, pour beaucoup d'eux, le sens de la sunna et le sens de la bid'a. À quoi vas-tu prêcher si tu n'as pas su toi-même ces choses-là, si toi-même tu n'as pas pu apprendre ces choses-là à tes proches, puisque tu ne les as pas su pour toi-même, à quoi vas-tu prêcher? Pourquoi te fatigues-tu autant? Puis tu dis, je suis le messager. Alors que voici ce que nous enseigne le messager. Alayhi salatu wassalam. Ainsi, quand le prophète a reçu ce verset, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tenu debout sur le mont As-Safa. Le mont As-Safa est un mont qui se situe proche de la Kaaba à la Mecque. Et a dit, « Ya ma'ashara Quraysh » ou une parole similaire. « Ô vous, le peuple de Quraysh, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a, rachetez vos âmes, je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. » Rachetez vos âmes, c'est-à-dire, de quoi? Du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Préparez-vous par les bonnes actions, rachetez vos âmes, sauvez-vous du feu, sauvez-vous du feu d'un jour terrible, car moi, je ne pourrai rien faire pour vous, je ne pourrai pas vous secourir si vous êtes touchés de ce châtiment divin, le châtiment d'Allah. Entrez donc en islam et préservez-vous de ce feu. La ughni ankum min Allahi shay'a. Je ne vous servirai à rien devant Allah. Et c'est ça la phrase que le croyant doit retenir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux gens qui sont autour de lui, la ughni ankum min Allahi shay'a. Subhanallah. Je ne vous servirai à rien devant Allah. Je ne peux rien pour vous devant Allah. Et qui il est? Il est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Que dire alors de quelqu'un qui est bien moindre que lui, de quelqu'un qui est en dessous de lui dans le rang qu'il occupe ou qu'il occuperait? Parce que pour beaucoup, ils n'ont pas ce rang qu'ils se sont donné ou qu'on leur a donné faussement. Pieux, vertueux, grand maître, le modèle, notre exemple, le pôle, on l'appelle le Qutb chez certains groupes, on dit le pôle, c'est-à-dire c'est vers lui que tous les gens reviennent. Hein, il y a le pôle nord et le pôle sud, lui c'est un pôle, on revient vers lui. Wal'iyadu billah. On revient vers lui pourquoi? Le prophète peut rien nous faire, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que lui peut nous faire quelque chose? Ils te diront non, mais ce n'est que pour le prendre comme intermédiaire. Nous savons qu'Allah est le seul créateur, le seul guérisseur, le seul protecteur, le seul pourvoyeur. Mais ce que l'on fait comme adoration pour lui, le pôle, le maître, le gourou, le grand cheikh, c'est simplement pour qu'il soit intermédiaire entre Allah et nous. La réponse, pourquoi alors les compagnons ne l'ont pas fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car viendra un jour où votre pôle en question va mourir. Hein, il sera le pôle sous la terre, dans son cercueil. Et il aura besoin de vous, mais vous, vous pensez avoir besoin de lui. D'accord? Le jour où il va mourir, il sera comme le prophète qui est mort, alayhi salatu wa sallam. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez les compagnons. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont été à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander... Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que lui leur a enseigné qu'on ne peut pas faire ça. Alors, à plus forte raison, vous ne pouvez pas faire ça. Et si vous faites ça, vous avez annulé votre amour d'Allah, votre amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi annulez-vous votre amour d'Allah? Pourquoi fermez-vous votre porte, peut-être la seule qui vous mène à Allah, volontairement? Sans que personne ne vous contraint à le faire. C'est vraiment là quelque chose d'étonnant. Tayyib. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, la ughni anka min Allah shay'a. Oh Abbas, savez-vous qui est Abbas? Abbas est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wasallam. Il lui dit, je ne te servirai à rien devant Allah. C'est-à-dire que malgré la proximité qu'il y a entre nous, malgré le lien de parenté, ce lien de parenté ne pourra rien faire devant Allah si tu n'es pas pieux, si tu n'es pas proche d'Allah, si tu ne lui es pas obéissant, d'être de ma famille ne te servira à rien chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, dans bon nombre de pays, on voit des gens qui, parce que ils sont de la famille de tel et tel, qui ont été déclarés comme étant les plus pieux de la terre, ou je ne sais quel autre qualificatif qu'on leur a donné, le simple fait qu'ils portent ce nom de famille fait qu'ils se pensent à l'abri. Et les gens aussi les croient à l'abri. Et dans certains pays, dans certains villages, quand on voit la descendance de tel gourou et de tel grand maître, grand suprême, je ne sais quoi d'autre encore, croyez-moi, on n'ose même pas les regarder. On n'ose même pas les regarder dans les yeux. Ne les regardez pas, pourquoi ? Parce qu'ils sont de la famille de un tel. Et par vénération envers ce un tel, ne regardez pas ce un tel en question, mais les gens de sa famille. Ça, c'est le shirk qui a mangé les cœurs des gens. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que ces gens, ils ont tous des problèmes après. C'est pour ça que ces gens, ils courent tout le temps à la porte des sorciers. Tac, 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 tac. Que se passe-t-il ? Ma femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Il n'y a pas de problème. Ramène une somme d'argent, je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Que se passe-t-il ? J'ai des problèmes. Il y a trop de jaloux dans mon village. Pas de problème. Apporte une somme d'argent et je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Oui, que se passe-t-il ? Problème de santé. Problème de santé ? Pas de problème. Amène telle somme d'argent et je te fais quelque chose. Tac, 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 tac. Et toute ta vie, tac, 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 tac. Réveille-toi, subhanallah. Et demande à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne voyez-vous pas que ces gens-là se sont enrichis sur votre dos, hein, et que vous avez toujours les mêmes problèmes. Et regardez dans les pays où il y a ces gens-là. Ils ont des châteaux avec 15 étages. Et on dit, non, ne regardez pas, surtout quand tu passes devant sa maison, il ne faut pas regarder, parce que quelque chose va peut-être te toucher. Wal'iyadu billah. Et à l'intérieur, en vérité, si tu regardais, tu sais ce que tu trouverais ? Tu trouverais des gens dans le luxe, en train de manger ce que toi tu ne manges pas, et en train de boire ce que toi tu ne bois pas, et en train de rire derrière. Regardez ces imbéciles qui nous ont donné tout leur argent. Subhanallah. Et pour certains, leurs familles, ils sont partis même vivre à New York. Jusqu'au jour où je vous parle, ils vivent comme des milliardaires à New York. Et ils ont même des gens qu'ils envoient, pour aller vendre des vêtements, pour aller vendre des objets dans toute la terre d'Allah. Et vous voyez, ils vendent des souvenirs pour les vacanciers, etc. Et avec toute la recette, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'envoient à la famille du grand maître spirituel qui va leur apporter la baraka. Subhanallah. Allahu Akbar. Wallahi, quand tu te détaches d'Allah, tu es voué à la perte. Quand ton adoré, ta divinité, est quelqu'un d'autre qu'Allah, regarde comment tu vis. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, « وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً » Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités pour que elles soient pour eux une source de fierté. Kalla, Allah a dit kalla, mais non, tout au contraire. Sa'akfuruna bi'ibadatihim. Ces divinités mécroiront en leur adoration. Wa yakununa 'alayhim didda. Et deviendront le contraire de ce qu'ils ont espéré. Le jour dernier, toutes ces divinités qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, wal'iyadu billah, savez-vous ce qu'elles vont faire ? Elles vont tout simplement s'innocenter, se désavouer. Ce n'est pas moi, oh Allah, qui leur a demandé de faire ça. Wal'iyadu billah, azimullah. Pour cela, le musulman doit se réveiller et arrêter de dormir. Arrêter de dormir et arrêter de se faire avoir par les livres de shirk, par les du'at, les prêcheurs au shirk, et d'apprendre, même si tu es dans un village où tu ne connais pas le tawhid, mais si ce tawhid en question vient à tes oreilles un jour, alors tu dois t'y soumettre pour Allah subhanahu wa ta'ala, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya Safiyyatu ammat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, la ughni anki min Allahi shay'a. Ô Safiyya, la tante du messager d'Allah, je ne te servirai rien devant Allah. Et pire encore, wa ya Fatima bint Muhammadin, ô Fatima, ma fille, la fille de Muhammad, salini min mali ma shi'ti, demande-moi de mes biens ce que tu veux. Ça je peux. Tu demandes de mes biens, je peux mettre la main à la poche et te donner. Mais la ughni anki min Allahi shay'a, je ne te serai d'aucune utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves du Coran et de la Sunna sont claires. Elles sont perçantes. Elles sont convaincantes. Elles sont tranchantes. Mais pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas alors ces preuves? La réponse, c'est parce que leur raisonnement a été pollué. Et quand le raisonnement a été pollué, la mauvaise compréhension découle. Et quand la mauvaise compréhension découle, l'individu commet le shirk. L'individu ignore dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète, le shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit: Envoro, كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش. Regardez comment le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité de façon globale et générale tout Quraysh. ثم خص عمه وعمته, puis plus particulièrement son oncle et sa tante. ثم خص بنته, puis plus particulièrement sa fille. فهذا بيان واضح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه. Ceci est une preuve claire que il ne possède pas la protection, le secours contre le feu pour ceux qui sont plus proches, pour ceux qui lui sont les plus proches, sa tribu de Quraysh, les frères et sœurs de son père, sa fille, alayhi salatu wassalam. Où est donc la personne qui a dit dans ces vers de poésie, et ce sont des vers de poésie qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup prononcés dans le soufisme, wal'iyadu billah, et qu'est-ce que ces vers disent? Ya akram al khalq, ma li man aloudhu bihi siwak, inda hululi l'hadithi l'imami, wal'iyadu billah. Le shirk pur. Dans les vers de poésie, la personne dit: ô toi la plus noble de créatures, je n'ai personne d'autre que toi chez qui chercher le refuge. Lorsque un événement difficile arrive, wal'iyadu billah, cette personne qui parle comme ça a même effacé le nom d'Allah de ses doigts. On ne peut pas faire plus dans le shirk, wal'iyadu billah. Et par Allah, cette personne et toute personne qui va la suivre jusqu'au jour dernier, chaque fois qu'elle tombera dans une difficulté et qu'elle prononcera ces paroles, wallahi, Allah l'humiliera. Allah tabaraka wa ta'ala l'humiliera. Et jamais ces gens ne sortiront des problèmes dans lesquels ils sont. Et ils en auront que plus. Wal'iyadu billah. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre. Il y a quelques leçons à tirer de ce dernier hadith. On va en citer quatre qui ont été citées par le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Premièrement, le fait de s'empresser à appliquer les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'où est-ce qu'on le prend? Le verset est descendu, le messager est exécuté, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, le prêcheur commence par les gens les plus proches avant de s'éloigner. Le prêcheur commence par les gens les plus proches avant de s'éloigner. Troisièmement, il n'est nullement autorisé de s'attacher à des personnes, à des êtres même si on dit que ces gens sont pieux et vertueux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux gens, en gros, ne vous attachez pas à moi, je ne vous serai d'aucune utilité, je ne vous servirai à rien. Et lui est la meilleure des personnes. Toute autre personne en bas de lui n'a pas le droit à cet attachement auquel n'a pas eu le droit le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, et c'est quelque chose de très important, que être proche ou avoir la proximité, un lien de parenté avec le messager sallallahu alayhi wa sallam n'est pas protection contre le feu. Donc, le fait d'être de la famille d'une bonne personne ne va pas te sauver du feu de l'enfer le jour dernier. Mais ce qui te sauve le jour dernier, ce sont tes actions pieuses, c'est l'obéissance dont tu as fait preuve pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre. Après cela, l'auteur rahimahullah passe à un nouveau chapitre en disant باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Chapitre suivant. À propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité, c'est lui le sublime, le grand, subhanahu wa ta'ala. À travers ce chapitre, l'auteur rahimahullahu ta'ala a le même but que le chapitre précédent, c'est-à-dire montrer l'épreuve du tawhid, montrer l'épreuve du droit à l'adoration pour personne d'autre qu'Allah, et montrer l'épreuve de l'interdiction du shirk. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle d'une créature particulière qui est les anges. Ici, quand Allah Azza wa Jal nous parle de la frayeur de leur cœur, il parle des anges, comme vous allez le voir dans l'étude de ce verset, où vous allez apprendre quelque chose sur la façon de travailler du sorcier et du voyant. Wal'iyadu billah. Ce qui vous montrera que le sorcier et le voyant sont des malfaiteurs, des gens mauvais, ayant les cœurs sales et mauvais, et qui commettent le shirk. Wal'iyadu billah. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'ali al-kabir. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand, subhanahu wa ta'ala. » Le Cheikh Saleh a dit « Mourad au Cheikh, rahimahullah, bihada al-bab. » À travers ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, veut « An yubayyana tafsira hadhihi al-aya » expliquer ce verset-là particulièrement. Rahmukallah. Car il a été expliqué par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez le voir dans ce chapitre, insha'Allah ta'ala. Car le Coran est expliqué par la sunna également. Parmi ceux qui étaient utilisés pour expliquer le Coran et le détailler, et détailler son sens, la sunna. C'est ce que vous allez voir ici, Inch'Allah ta'ala, et l'auteur veut montrer qu'il n'est pas permis d'adorer les pieux et particulièrement les anges, comme vous allez le voir ici, Inch'Allah ta'ala. Tout comme vous allez voir dans ce chapitre la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quel est le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid? La réponse, que comme nous l'avons dit, l'auteur a cité ce chapitre pour montrer l'obligation de n'adorer qu'Allah seul et sans associé. Dans le chapitre précédent, le sujet particulièrement qui est traité, c'est Ar-Rububiyya, la seigneurie. Dans celui-ci, le chapitre qui va, le sujet qui va être traité dans le Tawhid, c'est Al-Asma ou As-Sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres précédents, c'est que dans le chapitre précédent, on voit Tawhid al-Rububiyya, comme nous l'avons dit, on voit l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et dans ce chapitre, on va voir des preuves du Coran et de la Sunna qui montre qu'Allah doit aussi être unifié et qu'on doit reconnaître son unicité dans ses noms et dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait la mention des anges. Ça, c'est ce que je vous donne pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va lire le hadith et ça va l'éclaircir. Wa fi sahih an Abi Musa an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme est rapporté cela d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. إذا قضى الله الأمر في السماء إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الله أكبر. Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Lorsque Allah décrète un ordre au ciel, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala décrète un ordre au ciel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de sa sagesse et de sa science subhanahu wa ta'ala de décréter chaque jour ce qu'il y aura le lendemain. Allah azza wa jal s'adresse à ses anges qui lui sont les plus rapprochés et leur dit: demain tel serviteur aura telle chose, tel autre aura ou n'aura pas telle et telle autre chose. Les anges entendent cette révélation d'Allah, cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah décrète un ordre au ciel, les anges battent des ailes par soumission à sa parole. Ils ont entendu leur créateur tabaraka wa ta'ala. Ils se mettent à le craindre subhanahu wa ta'ala. Une peur s'empare de leur cœur. Ils sont alors effrayés par le son de cette parole, comparable au choc d'une chaîne de métal sur un rocher. Quand les anges entendent cet ordre d'Allah Azza wa Jal, ça leur fait un effet qui est semblable au choc qui est fait par la chaîne que l'un d'entre nous tient à sa main et avec laquelle il frappe un rocher. Voyez le résonnement et le bruit. Les anges entendent à peu près ça. Ça les choque. Ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah s'est exprimé. Allah a décrété, le Tout-Puissant, le plus grand, Azza wa Jal, a dit, il va avoir telle et telle chose. Ils battent leurs ailes, puis ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Ils perdent la raison, ils perdent connaissance. Par crainte de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, quand ensuite la frayeur sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. C'est-à-dire que, une fois la frayeur calmée de leur cœur, ils reprennent conscience. Quand ils reprennent conscience, ils se parlent les uns aux autres. Et ils se disent, alors, qu'est-ce qu'Allah a décrété aujourd'hui ? Qu'a-t-il dit ? Et eux disent ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, et ce qu'Allah a dit est la vérité. Et lui, Azza wa Jal, huwa al-Ali al-Kabir, c'est lui le très haut, le très grand, tabaraka wa ta'ala. Cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Le voyant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Le voyant qui dit aux gens connaître l'avenir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pratique l'adoration du diable. Wal-iyadu billah. Et il demande à ce diable, à ce démon, de lui apporter des informations sur telle et telle personne, de ce qui pourra lui arriver. Qu'est-ce que les diables font ? Ce que va nous dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille. On l'appelle Mustariqus Sam'a. Mustariqus Sam'a, c'est le démon qui vient dérober une parole. C'est-à-dire, il vient et il essaie d'écouter ce que les anges disent à ce moment-là. Où l'un dira à l'autre, qu'est-ce qu'Allah a dit ? Et l'autre lui répondra, Allah a dit telle et telle chose. Si le djinn est présent à ce moment-là, il prend cette information, qui est une information de l'avenir. Et il prend la fuite avec. Vers où et vers qui ? Vers le voyant qu'il a sollicité et qu'il l'a adoré en dehors d'Allah. Wal-iyadu billah. Or, ces espions sont juchés les uns sur les autres. Ça, c'est Sufyan ibn Uyayna, un des rapporteurs du hadith, qui l'a expliqué. Il illustra cela en écartant les doigts de sa main inclinée. Et celui qui a entendu la parole la transmet à ceux qui sont au-dessous de lui. Et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sorcier ou le devin. Mais il est possible que cet espion soit touché par un météorite avant de transmettre la parole. Comme il se peut qu'il la transmette avant d'être atteint, le sorcier ou le devin rajoute alors 100 mensonges à cette information. Et les gens disent, et les gens dirent, ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour ? Mais il sera considéré véridique en raison de cette parole qui a été entendue des cieux. Subhanallah. Voici ce que fait le sorcier. Il travaille avec les démons. Il les adore en dehors d'Allah. Ensuite, eux se mettent les uns sur les autres. Jusqu'au ciel, comme quelqu'un qui ferait l'échelle. Je m'assois sur tes épaules, un troisième s'assoit sur les miennes, un quatrième s'assoit, etc. Jusqu'à arriver au niveau où les anges parlent et disent ce qu'Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, et se mettent à écouter. Mais les anges sont aux aguets, ils surveillent. Et alors, le djinn qui entend une parole, une fois avoir entendu cette parole, il redescend. Ou il l'a dit à ceux qui sont en dessous et ainsi de suite. Et ils prennent la fuite. Soit on ne les a pas pris, alors ils vont donner cette information qui est vraie aux voyants. Soit il va être rattrapé par une étoile filante. Car l'étoile sert à trois choses. L'étoile sert à trois choses. Il y aura un chapitre dans ce livre. À embellir le ciel, à guider les voyageurs et à lapider les démons qui viennent dérober les paroles qu'ils entendent chez les anges. Donc les anges prennent leur poursuite et eux, soit ils arrivent à prendre la fuite, soit ils n'arrivent pas. Ils sont touchés par une étoile. Ils sont donc éliminés. Et ça, c'est ce que nous dit ce hadith. Subhanallah. Ce sont quand même des informations grandes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « إِذَا قَدَ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ » Quand Allah décrète une chose au ciel, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, quand il a décidé qu'il se passera quelque chose, il va le révéler à ses anges. Il va se passer telle chose pour telle personne demain, et telle autre chose pour telle personne demain. Allah parle, subhanahu wa ta'ala. On voit donc Allah a cet attribut qui est la parole. Il parle quand il veut et dit ce qu'il veut selon sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. On voit également qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux. إِذَا قَدَ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ Lorsqu'Allah décrète une chose au ciel. Au ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا Les anges font battre leurs ailes. Et vous savez que les anges font partie des plus grandes créatures d'Allah, dont seul Allah en connaît la taille. Mais il y a un récit authentique rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ra'aytu Jibril » J'ai vu Jibril, c'est-à-dire sous sa vraie forme. Combien d'anges il avait, combien d'ailes il avait? Il avait 600 ailes par lesquelles il recouvrait l'horizon. Jibril, lui tout seul. Subhanallah. Et les anges, il y en a énormément et seul Allah en connaît le nombre. Tabaraka wa ta'ala. Et malgré cela, il est nullement permis de les adorer en dehors d'Allah, puisque il leur est arrivé cette chose. Et c'est pour ça qu'on cite ce verset, ce hadith ici. Parce qu'ils ont été effondrés au point de perdre la raison et au point de perdre connaissance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils sont effondrés. Ils ne sont plus là. Ils ont perdu connaissance. Ceux qui adorent les anges, imaginez-vous qu'ils les adorent au moment où ils ont perdu la connaissance. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur apporter comme bien? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur repousser comme mal? Rien. Eux-mêmes sont des créatures assujetties à l'ordre d'Allah, dépendantes de la volonté d'Allah, de la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne doit donc pas les adorer. C'est pour ça qu'on l'a cité ici, ou que l'auteur l'a cité ici, rahimahullah ta'ala. Donc ils font battre leurs ailes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ils entendent ces paroles, ils entendent les paroles d'Allah Azza wa Jal, puis cela leur met une crainte dans le cœur. Ils sont effondrés au sol et ils perdent connaissance par crainte d'Allah, car eux sont des serviteurs d'Allah et les serviteurs d'Allah sont faibles devant Allah. Ils doivent l'adorer et ne doivent donc pas être adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, que se passe-t-il? Le djinn qui se rapproche de ses anges après qu'ils se soient réveillés et qu'ils aient repris connaissance les écoute dans leur discussion. Il se met à l'abri, il se cache, il écoute. Et là, s'il arrive à dérober une information, il prend la fuite aussitôt avec et il la descend aux voyants et aux sorciers. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةِ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهِ Il entend la parole et la donne à celui qui est en dessous de lui, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette parole parvienne aux sorciers et aux devins. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ Et ces deux gens-là, qui sont ceux qui font la sorcellerie et la voyance, ne pourront jamais être musulmans tant qu'ils font la sorcellerie et la voyance, car ce sont des annulatifs de l'islam, des empêchements d'être musulmans, du shirk pur, du polythéisme majeur, clair, sans équivoque, sans ambiguïté, et sans le moindre doute. Wal-iyadu billah. Le Cheikh a dit: فَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّحَرَةَ وَالْكُهَانَ يَتَلَقَّوْنَ عَنْ الشَّيَاطِينِ. Et on voit la preuve que les diables, pardon, que les sorciers et les devins prennent leurs informations des diables. Quelle mauvaise chaîne de transmission. Ils prennent leurs informations des diables. وَفِيهِ إِبْطَالٌ لِعَمَلِ السَّحَرَةِ وَالْكُهَانِ. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أن الكهان والسحرة يتلقون عن الشياطين. Donc Allah عز وجل a dit dans le sens des versets: voulez-vous que je vous informe vers qui descendent les diables? Ils descendent vers tout grand pécheur et menteur, qu'ils leur prêtent l'oreille alors qu'ils sont menteurs. Allah Azza wa Jal nous montre donc ceux de qui prennent les sorciers et les devins, qui sont les démons. Wal-iyadu billah. Tayyib. Après cela, soit le démon arrive à donner la parole au devin. Dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire le devin? Le devin va prendre cette parole qui est vraie, qui est pour lui un trésor, car c'est une réalité. Il dit à la personne: tu as telle et telle chose. Il enjolive, il embellit ses paroles. Il t'est arrivé ça, il risque de t'arriver ça, à mon avis, il va t'arriver ça. Et il enjolive de sorte à ce que le lendemain, quand cette chose va arriver à cette personne, le devin va lui ajouter 100 mensonges. Les gens ne vont plus regarder les mensonges. Ils vont voir que cette vérité. Cette personne dit la vérité. J'ai essayé, je l'ai consulté, il a dit vrai. Et comme les 100 mensonges ont été enjolivés, il n'est pas venu directement lui dire des choses auxquelles on ne va pas croire, mais il a transformé ses paroles. Ça va faire que ces gens vont aller voir d'autres gens et vont leur dire: crois-moi, j'ai essayé, je l'ai payé, le lendemain j'ai vu le résultat. Il m'a dit, va t'arriver ça, il m'est arrivé ça. Il est bon, il est excellent, il est fort. Wal-iyadu billah. Oui, il est fort dans le shirk et dans le kufr, mais il ne connaît rien de l'ordre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, il a simplement fait ce que vous avez entendu dans ce hadith. Voilà comment travaillent le sorcier et le devin qui prétendent connaître l'invisible. Donc soit on arrive à prendre cette information et alors le devin va s'en servir, il va y ajouter 100 mensonges, ou alors il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, c'est-à-dire que le démon va être lapidé par une étoile filante avant d'arriver au sorcier. Walhamdulillah. Donc ça, c'est le premier texte de ce hadith, de ce chapitre, et on va s'arrêter sur celui-ci inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.